Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. De nouveau ensemble pour la suite et la fin du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. En ce moment, mon père souffrait. Du moins, il s'exaspérait. Elsa était devenue pour lui le symbole de la vie passée, de la jeunesse, de sa jeunesse surtout. Je sentais qu'il mourait d'envie de dire à Anne « Ma chérie, excuse-moi une journée, il faut que j'aille me rendre compte auprès de cette fille que je ne suis pas un barbon, il faut que je réapprenne la lassitude de son corps pour être tranquille. » Mais il ne pouvait le lui dire, non parce qu'Anne était jalouse ou foncièrement vertueuse et intraitable sur ce sujet, mais parce qu'elle avait dû accepter de vivre avec lui sur les bases suivantes. Que l'air de la débauche facile était fini, qu'il n'était plus un collégien mais un homme à qui elle confiait sa vie, et que par conséquent il avait à se tenir bien, et non pas en pauvre homme esclave de ses caprices. On ne pouvait le reprocher à Anne, c'était parfaitement normal et sain comme calcul, mais cela n'empêchait pas mon père de désirer Elsa. De la désirer peu à peu, plus que n'importe quoi, de la désirer du double désir que l'on porte à la chose interdite. Et sans doute à ce moment-là pouvais-je tout arranger. Il me suffisait de dire à Elsa de lui céder et, sous un prétexte quelconque, d'emmener Anne avec moi à Nice ou ailleurs passer l'après-midi. Au retour, nous aurions trouvé mon père détendu et plein d'une nouvelle tendresse pour les amours légales, ou qui du moins devait le devenir dès la rentrée. Il y avait aussi ce point que ne supporterait point Anne, avoir été une maîtresse comme les autres. Provisoire. Que sa dignité, l'estime qu'elle avait d'elle-même, nous rendait la vie difficile. Mais je ne disais pas à Elsa de lui céder, ni à Anne de m'accompagner à Nice. Je voulais que ce désir au cœur de mon père s'infestât et lui fît commettre une erreur. Je ne pouvais supporter le mépris dont Anne entourait notre vie passée. Ce dédain facile, pour ce qui avait été pour mon père, pour moi, le bonheur. Je voulais non pas l'humilier, mais lui faire accepter notre conception de la vie. Il fallait qu'elle sût que mon père l'avait trompée et qu'elle prît cela dans sa valeur objective comme une passade toute physique, non comme une atteinte à sa valeur personnelle, à sa dignité. Si elle voulait à tout prix avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Je faisais même semblant d'ignorer les tourments de mon père. Il ne fallait surtout pas qu'il se confiât à moi, qu'il me forçât à devenir sa complice, à parler à Elsa et écarter Anne. Je devais faire semblant de considérer son amour pour Anne comme sacré, et la personne d'Anne elle-même. Et je dois dire que je n'y avais aucun mal. L'idée qu'il pût tromper Anne et l'affronter me remplissait de terreur et d'une vague admiration. En attendant, nous coulions des jours heureux. Je multipliais les occasions d'exciter mon père sur Elsa. Le visage d'Anne ne me remplissait plus de remords. J'imaginais parfois qu'elle accepterait le fait et que nous aurions avec elle une vie aussi conforme à nos goûts qu'aux siens. D'autre part, je voyais souvent Cyril et nous nous aimions en cachette. L'odeur des pins, le bruit de la mer, le contact de nos corps. Il commençait à se torturer de remords. Le rôle que je lui faisais jouer lui déplaisait au possible. Il ne l'acceptait que parce que je le lui faisais croire nécessaire à notre amour. Tout cela représentait beaucoup de duplicité, de silences intérieurs, mais si peu d'efforts, de mensonges. Et seul, je l'ai dit, mes actes me contraignaient à me juger moi-même. Je passe vite sur cette période car je crains, à force de chercher, de retomber dans des souvenirs qui m'accablent moi-même. Déjà, il me suffit de penser au rire heureux d'Anne, à sa gentillesse avec moi, et quelque chose me frappe. D'un mauvais coup bas, me fait mal. Je m'essouffle contre moi-même. Je me sens si près de ce qu'on appelle la mauvaise conscience que je suis obligé de recourir à des gestes, allumer une cigarette, mettre un disque, téléphoner à un ami. Peu à peu, je pense à autre chose. Mais je n'aime pas cela de devoir recourir aux déficiences de ma mémoire, à la légèreté de mon esprit, au lieu de les combattre. Je n'aime pas les reconnaître, même pour m'en féliciter. C'est drôle. Comme la fatalité se plaît à choisir pour la représenter des visages indignes ou médiocres. Cet été-là, elle avait pris celui d'Elsa, d'un très beau visage, si l'on veut, attirant plutôt. Elle avait aussi un rire extraordinaire, communicatif et complet, comme seul en ont les gens un peu bêtes. Ce rire, j'en avais vite reconnu les effets sur mon père. Je le faisais utiliser au maximum par Elsa quand nous devions la surprendre avec Cyril. Je lui disais « Quand vous m'entendrez arriver avec mon père, ne dites rien, mais riez. » Et alors, à entendre ce rire comblé, je découvrais sur le visage de mon père le passage de la fureur. Ce rôle de metteur en scène ne laissait pas de me passionner. Je ne manquais jamais mon coup, car quand nous voyions Cyril et Elsa ensemble, témoignant ouvertement de liens imaginaires, mais si parfaitement imaginables, mon père et moi pâlissions ensemble. Le sang se retirait de mon visage comme du sien, attiré très loin par ce désir de possession pire que la douleur. Cyril. Cyril penché sur Elsa. Cette image me dévastait le cœur et je la mettais au point avec lui et Elsa sans en comprendre la force. Les mots sont faciles, liants. Et quand je voyais le contour du visage de Cyril, sa nuque brune et douce inclinée sur le visage offert d'Elsa, j'aurais donné n'importe quoi pour que cela ne fût pas. J'oubliais que c'était moi-même qui l'avais voulu. En dehors de ces accidents et comblant la vie quotidienne, il y avait la confiance, la douceur. J'ai du mal à employer ce terme, le bonheur d'Anne. Plus près du bonheur en effet, que je ne l'avais jamais vu, livré à nous, les égoïstes, très loin de nos désirs violents et de mes basses petites manœuvres. J'avais bien compté sur cela, son indifférence. Son orgueil l'écartait instinctivement de toute tactique pour s'attacher plus étroitement à mon père, et en fait de toute coquetterie autre que celle d'être belle, intelligente et tendre. Je m'attendris peu à peu sur son compte. L'attendrissement est un sentiment agréable et entraînant comme la musique militaire. On ne saurait me le reprocher. Un beau matin, la femme de chambre, très excitée, m'apporta un mot d'Elsa, ainsi conçu. « Tout s'arrange, venez !» Cela me donna une impression de catastrophe. Je déteste les dénouements. Enfin, je retrouvai Elsa sur la plage, le visage triomphant. « Je viens de voir votre père, enfin, il y a une heure. » Que vous a-t-il dit ? Il m'a dit qu'il regrettait infiniment ce qui s'était passé, qu'il s'était conduit comme un goujat. C'est bien vrai, non ? Je crus devoir acquiescer. Puis il m'a fait des compliments comme lui seul sait en faire. Vous savez, ce ton un peu détaché et d'une voix très basse, comme s'il souffrait de les faire. Ce ton Je l'arrachais aux délices de l'idylle. Pour en venir à quoi ? Eh bien, rien. Enfin si, il m'a invité à prendre le thé avec lui au village pour lui montrer que je n'étais pas rancunière et que j'étais large d'idées, évoluée, quoi. Les idées de mon père sur l'évolution des jeunes femmes rousses faisaient ma joie. Pourquoi riez-vous ? Est-ce que je dois y aller ? Je faillis lui répondre que cela ne me regardait pas, puis je me rendis compte qu'elle me tenait pour responsable du succès de ses manœuvres. À tort ou à raison, cela m'irrita. Je me sentais traqué. Mais je ne sais pas, Elsa, cela dépend de vous. Ne me demandez pas toujours ce qu'il faut que vous fassiez, on croirait que c'est moi qui vous pousse à... Mais c'est vous, dit-elle. C'est grâce à vous, voyons. Son intonation admirative me faisait brusquement peur. Allez-y si vous voulez, mais ne me parlez plus de cela, par pitié. Mais il faut bien se débarrasser et le débarrasser de cette femme, Cécile. Je m'enfuis. Que mon père fasse ce qu'il veut, qu'Anne se débrouille. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec Cyril. Il me semblait que seul l'amour me débarrasserait de cette peur anémiante que je ressentais. Cyril me prit dans ses bras sans un mot et m'emmena. Près de lui, tout devenait facile, chargé de violence, de plaisir. Quelque temps après, étendu contre lui sur ce torse doré inondé de sueur, moi-même épuisé, perdu comme une naufragée, je lui dis que je me détestais. Je le lui dis en souriant car je le pensais, mais sans douleur, avec une sorte de résignation adorable et agréable. Il ne me prit pas au sérieux. Peu importe, je t'aime assez pour t'obliger à être de mon avis. Je t'aime tant. Le rythme de cette phrase me poursuivit pendant tout le repas. Je t'aime tant. C'est pourquoi, malgré mes efforts, je ne me souviens plus très bien de ce déjeuner. Anne avait une robe mauve, comme les cernes sous ses yeux, comme ses yeux même. Mon père riait, apparemment détendu. La situation s'arrangeait pour lui. Il annonça au dessert des courses à faire au village, dans l'après-midi. Je souris intérieurement. J'étais fatigué, fataliste. Je n'avais qu'une envie, me baigner. À 4 heures, je descendis sur la plage. Je trouvai mon père sur la terrasse, comme il partait pour le village. Je ne lui dis rien. Je ne lui recommandai même pas la prudence. L'eau était douce et chaude. Anne ne vint pas. Elle devait s'occuper de sa collection, dessinée dans sa chambre, pendant que mon père faisait le joli cœur avec Elsa. Au bout de 2 heures, comme le soleil ne me réchauffait plus, je remontai sur la terrasse, m'assis dans un fauteuil, ouvris un journal. C'est alors qu'Anne apparut. Elle venait du bois. Elle courait, mal d'ailleurs, maladroitement, les coudes au corps. J'eus l'impression subite, indécente, que c'était une vieille dame qui courait, qu'elle allait tomber. Je restais sidéré. Elle disparut derrière la maison vers le garage. Alors je compris brusquement et me mis à courir moi aussi pour la rattraper. Elle était déjà dans la voiture, elle mettait le contact. J'arrivai en courant et m'abattis sur la portière. Anne, dis-je, Anne, ne partez pas, c'est une erreur, c'est ma faute, je vous expliquerai. Elle ne m'écoutait pas, ne me regardait pas, et se penchait pour desserrer le frein. Got my rain check, shake my head and walk away. Ooh,
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Suite et fin du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Anne se redressa alors, décomposée. Elle pleurait. Alors, je compris brusquement que je m'étais attaqué à un être vivant et sensible, et non pas à une entité. Elle avait dû être une petite fille un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait 40 ans, elle était seule, elle aimait un homme, et elle avait espéré être heureuse avec lui 10 ans, 20 ans peut-être, et moi. Ce visage, c'était mon œuvre. J'étais pétrifié. Je tremblais de tout mon corps contre la portière. « Vous n'avez besoin de personne, » murmura-t-elle, « ni vous, ni lui. » Le moteur tournait. J'étais désespéré. Elle ne pouvait pas partir ainsi. « Pardonnez-moi, je vous en supplie. »« Vous pardonnez quoi ?» Les larmes roulaient inlassablement sur son visage. Elle ne semblait pas s'en rendre compte, le visage immobile. Ma pauvre petite fille. Elle posa une seconde sa main sur ma joue et partit. Je vis la voiture disparaître au coin de la maison. J'étais perdu, égaré. Tout avait été si vite. Et ce visage qu'elle avait, ce visage. J'entendis des pas derrière moi. C'était mon père. Il avait pris le temps d'enlever le rouge à lèvres d'Elsa, de brosser les aiguilles de pain de son costume. Je me retournai, me jetai contre lui. « Salaud ! Salaud !» Je me mis à sangloter. « Mais que se passe-t-il ? Est-ce que Anne... Cécile, dis-moi, Cécile !» Nous ne nous retrouvâmes qu'au dîner, tous deux anxieux de ce tête-à-tête si brusquement reconquis. Je n'avais absolument pas faim, lui non plus. Nous savions tous les deux qu'il était indispensable qu'Anne nous revînt. Pour ma part, je ne pourrais pas supporter longtemps le souvenir du visage bouleversé qu'elle m'avait montré avant de partir, ni l'idée de son chagrin et de mes responsabilités. J'avais oublié mes patientes manœuvres et mes plans si bien montés. Je me sentais complètement désaxé, sans reine ni mort, et je voyais le même sentiment sur le visage de mon père. « Crois-tu, dit-il, qu'elle nous ait abandonnés pour longtemps ?»« Elle est sûrement partie pour Paris, dis-je. « Paris ?» murmura mon père rêveusement. « Nous ne la verrons peut-être plus ?» Il me regarda désemparé et prit ma main à travers la table. « Tu dois m'en vouloir terriblement, je ne sais pas ce qui m'a pris. En rentrant dans le bois avec Elsa, elle, enfin, je l'ai embrassée. Et Anne a dû arriver à ce moment-là et... Je ne l'écoutais pas. Les deux personnages d'Elsa et de mon père enlacés dans l'ombre des pins m'apparaissaient vaudevillesques et sans consistance. Je ne les voyais pas. La seule chose vivante et cruellement vivante de cette journée, c'était le visage d'Anne. Ce dernier visage marqué de douleur, ce visage trahi. Je pris une cigarette dans le paquet de mon père, l'allumai. Encore une chose qu'Anne ne tolérait pas, que l'on fumât au milieu du repas. Je souris à mon père. Je comprends très bien, ce n'est pas ta faute. Un moment de folie, comme on dit, mais il faut qu'Anne nous pardonne, enfin, te pardonne. « Que faire ? » dit-il. Il avait très mauvaise mine, il me fit pitié, je me fis pitié à mon tour. Pourquoi Anne nous abandonnait-elle ainsi ? Nous faisait-elle souffrir pour une incartade, en somme ? N'avait-elle pas des devoirs envers nous ? « Nous allons lui écrire, » dis-je, « et lui demander pardon. » « C'est une idée de génie !» cria mon père. Il trouvait enfin un moyen de sortir de cette inaction pleine de remords où nous tournions depuis 3 heures. Sans fit dire de manger, nous repoussâmes la nappe et les couverts. Mon père alla chercher une grosse lampe, des stylos, un encrier et son papier à lettres, et nous nous installâmes l'un en face de l'autre, presque souriant, tant le retour d'Anne par la grâce de cette mise en scène nous semblait probable. Une chauve-souris vint décrire des courbes soyeuses devant la fenêtre. Mon père pencha la tête, commença d'écrire. Je ne puis me rappeler sans un sentiment insupportable de dérision et de cruauté les lettres débordantes de bons sentiments que nous écrivîmes à Anne ce soir-là, tous les deux sous la lampe, comme deux écoliers appliqués et maladroits, travaillant dans le silence à des devoirs impossibles. Retrouver Anne. Nous fîmes cependant deux chefs-d'œuvre du genre, pleins de bonnes excuses, de tendresse et de repentir. En finissant, j'étais à peu près persuadé qu'Anne n'y pourrait pas résister, que la réconciliation était imminente. Je voyais déjà la scène du pardon, pleine de pudeur et d'humour. Elle aurait lieu à Paris, dans notre salon. Anne entrerait et... Le téléphone sonna. Il était 10 heures. Nous échangeâmes un regard étonné, puis plein d'espoir. C'était Anne. Elle téléphonait qu'elle nous pardonnait, qu'elle revenait. Mon père bondit vers l'appareil et cria « Allô !» d'une voix joyeuse. Puis il ne dit plus que « Oui, oui, ou ça, oui » d'une voix imperceptible. Je me levai à mon tour. La peur s'ébranlait en moi. Je regardais mon père et cette main qu'il passait sur son visage d'un geste machinal. Enfin, il raccrocha et se tourna vers moi. Elle a eu un accident. Sur la route de l'Estérel, il leur a fallu du temps pour retrouver son adresse. Ils ont téléphoné à Paris et là, on leur a donné notre numéro d'ici. L'accident a eu lieu à l'endroit le plus dangereux. Il y en a eu beaucoup à cet endroit. La voiture est tombée de 50 mètres. Il eût été miraculeux qu'elle s'en tire. Du reste de cette nuit, je me souviens comme d'un cauchemar. La route surgissant sous les phares, le visage immobile de mon père, la porte de la clinique. Mon père ne voulut pas que je la revoie. J'étais assise dans la salle d'attente sur une banquette. Je regardais une lithographie représentant Venise. Je ne pensais à rien. Une infirmière me raconta que c'était le 6e accident à cet endroit depuis le début de l'été. Mon père ne revenait pas. À Paris, il y eut l'enterrement par un beau soleil, la foule curieuse, le noir. Mon père et moi serrâmes les mains de la vieille parente d'Anne. Je les regardais avec curiosité. Elle serait sûrement venue prendre le thé à la maison une fois par an. On regardait mon père avec commisération. Webb avait dû répandre la nouvelle du mariage. Je vis Cyril qui me cherchait à la sortie, je l'évitais. Le sentiment de rancune que j'éprouvais à son égard était parfaitement injustifié, mais je ne pouvais pas m'en défendre. Les gens autour de nous déploraient ce stupide et affreux événement, et comme j'avais encore quelques doutes sur le côté accidentel de cette mort, cela me faisait plaisir. Dans la voiture, en revenant, mon père prit ma main et la serra dans la sienne. Je pensais « Tu n'as plus que moi, je n'ai plus que toi. Nous sommes seuls et malheureux. » Et pour la première fois, je pleurais. C'étaient des larmes assez agréables. Elles ne ressemblaient en rien à ce vide terrible que j'avais ressenti dans cette clinique devant la lithographie de Venise. Mon père me tendit son mouchoir sans un mot, le visage ravagé. Durant un mois, nous avons vécu tous les deux comme un veuf et une orpheline, dînant ensemble, déjeunant ensemble, ne sortant pas. Nous parlions un peu d'Anne, parfois. Tu te rappelles le jour que nous en parlions avec précaution, les yeux détournés par crainte de nous faire mal ou que quelque chose venant à se déclencher en l'un de nous ne l'amène aux paroles irréparables. C'est prudence. Ces douceurs réciproques eurent leur récompense. Nous pûmes bientôt parler d'Anne sur un ton normal, comme d'un être cher avec qui nous aurions été heureux, mais que Dieu avait rappelé à lui. J'écris Dieu au lieu de hasard, mais nous ne croyons pas en Dieu, déjà bien heureux en cette circonstance de croire au hasard. Puis un jour, chez une amie, je rencontrai un de ses cousins qui me plut et auquel je plus. Je sortis beaucoup avec lui durant une semaine avec la fréquence et l'imprudence des commencements de l'amour, et mon père, peu fait pour la solitude, en fit autant avec une jeune femme assez ambitieuse. La vie recommença comme avant, comme il était prévu qu'elle recommencerait. Quand nous nous retrouvons, mon père et moi, nous rions ensemble, nous parlons de nos conquêtes. Il doit bien se douter que mes relations avec Philippe ne sont pas platoniques, et je sais bien que sa nouvelle amie lui coûte fort cher. Mais nous sommes heureux. L'hiver touche à sa fin. Nous ne relouerons pas la même villa, mais une autre, près de Juan-les-Pins. Seulement, quand je suis dans mon lit, à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs, Anne, Anne. Je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse. Voilà, nous avons terminé donc ce roman de Françoise Sagan, Bonjour, tristesse. Nous nous retrouverons demain pour une petite soirée de lecture de fin de semaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.